Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Radio G dans cette émission présentée par les jeunes de la mission locale. J'espère que vous allez bien, je m'appelle Myriam et je serai votre animatrice. Installez-vous confortablement car aujourd'hui nous allons parler de la série fantastique Merlin sous un angle différent, d'un film très populaire actuellement dans le cinéma français. Nous allons également débattre sur les sujets que traite la saga de films Hunger Games. Et nous terminerons en douceur en vous présentant la passion d'une de nos chroniqueuses. Bien évidemment, je ne suis pas seule. Pour m'accompagner dans cette émission, il y a avec moi Ethan. Comment ça va, Ethan ?
Pas trop stressé ? Ça va super, et toi ?
C'est parfait ! Mais également Lila, comment tu te sens, Lila ?
Ça va super !
C'est génial, ça ! Mais nous avons aussi Maya. Ça va super, Maya ?
Ça va super, merci.
Et pour finir, il y a aussi Manuela. Comment ça va, Manuela ?
Ça va super bien.
Pas trop stressé ?
Si.
Ah, ça va bien se passer. Et en réel, nous avons Mamadi. Comment ça va, Mamadi ?
Ça va super.
C'est génial. On commence cette émission en parlant d'une série pleine de sorcellerie. N'est-ce pas, Ethan ?
Oui, totalement. Aujourd'hui, je vais faire une chronique sur une série mélangeant le genre histoire et fantastique. Parlant de la légende du roi Arthur et de Excalibur, l'épée du roi, le nom de la série est Merlin du studio BBC, sorti le 20 septembre 2008, réalisé par les réalisateurs Julian Jones, Jack Michie, Johnny Capps et Julian Murphy, disponible sur Prime Video avec les acteurs principaux Colin Morgan et Cathy McGrath. Pour vous présenter la série, je dirais que la série est axée sur un jeune sorcier maladroit qui évolue pour devenir le conseiller stratégique du roi Arthur et décrire le destin de leur pays nommé Albion, dans un royaume où la magie est proscrite. Je vais également parler des acteurs principaux qui sont très talentueux. L'acteur de Merlin, aka Colin Morgan, a déclaré que son personnage est selon lui tragique car c'est un homme prêt à tout sacrifier pour un avenir meilleur. L'actrice de Morgan, aka Cathy McGrath, est que son personnage passe de alliée bienveillante à antagoniste complet à cause de la peur de ses pouvoirs et au début et du rejet qui en découle. L'actrice a également dit que jouer Morgan était un défi mais aussi sa partie préférée et elle a fait en sorte que le public comprenne les blessures et actes de Morgan. Bradley James, l'acteur de Arthur et Colin Morgan avaient une excellente dynamique ensemble, ce qui se fait ressentir dans la série, dans leur relation maître-serviteur. Cathy a souvent ri du fait qu'elle ne se sentait pas intimidante dans ses tenues de sorcière, même avec de lourds manteaux parfois gênants. Le château de la série se trouve à Pierrefonds à côté de Paris en France. À la fin de la dernière séance de tournage, Colin et Cathy ont avoué qu'ils avaient du mal à ne pas pleurer car cet univers était devenu leur famille. Merci de m'avoir écouté, je vous passe désormais Myriam.
Merci beaucoup Ethan pour cette chronique. On continue avec un film très populaire à l'affiche du cinéma français que tu vas nous présenter, Lila.
Eh oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film français de Mathieu Delaporte et de Alexandre de la Patellière qui s'appelle Le Comte de Monte Cristo, sorti en 2024. Ce film est une adaptation du roman de Alexandre Dumas, dont la publication commence pendant l'été 1844 et se termine en janvier 1846. Donc c'est l'histoire d'un jeune marin qui subit une injustice. Il est arrêté le jour de son mariage pour trahison. Quelques années plus tard, il sort de prison et met en place une vengeance qui laissera des traces. Donc les rôles principaux, ils sont tenus par Pierre Ninet qui joue Edmond Dantès, alias le Comte de Monte Cristo, Anaïs Desmoustiers qui joue Mercedes et Laurent Lafitte qui tient le rôle du procureur du roi de Marseille, Gérard de Villefort. Bien sûr, d'autres personnages tous aussi charismatiques les uns que les autres amènent de la puissance au film. Mon avis, il est très positif sur le film. Je le trouve grandiose et la manière dont la vengeance est interprétée m'a donné une émotion de satisfaction intense. La scène donc, qui m'a le plus marquée, c'est celle du dîner. Au cours de la scène, Edmond évoque la présence d'un bébé décédé dans les murs de la demeure. C'est une manière subtile et brutale d'entamer sa vengeance. Je trouve cette scène forte car les personnages concernés sont présents donc au dîner. Le film, il m'a fait ressentir de la compassion et de l'injustice pour Edmond. La tristesse, elle est aussi très présente par les drames présents dans le film. Malgré tout, le film m'a bouleversée car à la fin de la séance, le temps s'est suspendu et mes émotions se sont emballées. Je pense que ce film, c'est vraiment l'un des meilleurs de la génération. Les décors, la musique, les personnages et la prestation des acteurs nous transportent dans un univers où le sentiment de vengeance est autorisé et sain. Je vous invite donc tous à regarder le film si ce n'est pas déjà fait. À ce jour, le film est disponible sur MyCanal. Merci de votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Myriam, le film t'a plu ?
Oui, j'ai adoré le film. Merci à toi, Lila. Maintenant, nous allons vous proposer une pause musicale. Mamadi, tu souhaites nous faire découvrir un de tes artistes préférés, n'est-ce pas ?
Oui, alors bonjour, moi c'est Mamadi. Aujourd'hui, je vais vous présenter un artiste intercompositeur qui s'appelle tout simplement Wada Dugim. Wada Dugim, né le 8 avril 2000 à Conakry, capitale de la Guinée, qu'il a vu grandir. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2018. L'origine du blaze Wada Dugim, l'artiste a commencé sa carrière dans un groupe nommé SZN, Sabutiga Niga. La musique Zemsa a été chantée par l'artiste en novembre 2019. L'artiste Wada Dugim organise son concert le 7 mars 2020. Concert à succès, plus de 2000 tickets vendus. L'intervalle 2020-2021, considéré comme l'artiste le plus aimé de sa génération en Guinée, qui a participé à de nombreux projets musicaux entre 2019-2020. C'est un artiste qui m'a beaucoup inspiré. Ben voilà, je vous laisse écouter la musique Zemsa de l'artiste guinéen Wada Dugim. A tout de suite, Radio G.
Qui m'a légué les bonnes manières. Pardon maman, il faut bénir ma carrière. Dans ma lasse fort de briser des barrières. Inch'Allah, je serai jamais en arrière. Allô maman, comment tu vas maman? Est-ce que ça va? Comment tu gères les bails? Ne coûte pas ces gens, ils diront du mal de moi. Ce sont des jaloux, ils diront du mal de moi. 9 mois de grossesse, tant d'années de souffrance. Je te fais la promesse, tu seras dans l'opulence. Tu gardes le sourire, c'est ce que j'aime moi. Maman est fière de moi, voilà j'aime ça. Faire de toi une reine, c'est ce que j'aime moi. Que tu te passes toutes les femmes, voilà j'aime ça. J'aime ça, oui, j'aime ça. J'aime ça pour ma maman, j'aime ça. J'aime ça, oui, j'aime ça. J'aime ça pour ma maman, j'aime ça. On t'a insulté, humilié. Tu nous as pas abandonné, t'es resté. Tu nous as élevé. Tu comptais sur ton fils pendant qu'il traînait dans les vis. Ne crois pas que c'est fini. Le meilleur reste à venir. Ils te feront croire que ton fils erre dans la rue. Qu'il n'a rien à faire, qu'il n'a rien de prévu. Mais maman, il faut leur laisser mes préjugés. C'est le tout puissant qui a le dernier mot. Je ferai tout pour toi. Faut prier pour moi. Je vais briller comme une étoile. Si tu pries pour moi. I love you, my love you, my love you. Tu gardes le sourire, c'est ce que j'aime moi. Quand maman est fière de moi, voilà j'aime ça. Faire de toi une reine, c'est ce que j'aime moi. Que tu te passes toutes les femmes, voilà j'aime ça. J'aime ça, oui, j'aime ça. J'aime ça pour ma maman, j'aime ça. J'aime ça, oui, j'aime ça. J'aime ça pour ma maman, j'aime ça. T'es la source de ma vie. Je me battrai corps et âme pour te donner le sourire. Je n'ai qu'une seule envie. C'est de faire l'impossible pour pouvoir tout offrir. Le noir est seulement mauvais. Sinon t'as rien à gagner, y'a te mêlant de la vie des gens. Le noir est tellement mauvais qu'il passe tout son temps à se mêler de la vie des gens. I love you mama, 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 I love you mama. Faire de toi une reine, c'est ce que j'aime moi. Que tu te passes toutes les femmes, voilà j'aime ça. J'aime ça, oui, j'aime ça.
pour ma maman, j'aime ça. J'aime ça, oui, j'aime ça. J'aime ça pour ma maman, j'aime ça.
Merci Mamadi pour cette découverte. Maintenant Maya, tu nous proposes de débattre ensemble des films Hunger Games.
Oui Myriam, donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de la saga Hunger Games. Hunger Games qui signifie les jeux de la fin. Donc cette saga parle d'un monde post-apocalyptique où sont organisés tous les ans des jeux mettant en scène une arène où s'affronteront à mort un garçon et une fille choisis dans chacun des 12 districts entourant le Capitole, gouvernement de ce monde. À la fin, le survivant des 24 désignés sera récompensé d'une gloire et d'une richesse inconnue, de la vie des districts étant pauvre et vide de toute ressource. Ces jeux ont été mis en place en guise de punition d'une précédente révolte des rebelles et empêché une récidive. Alors, pour ce débat, la première question ce serait, est-ce que le concept des Hunger Games vous paraît-il juste? Et qu'est-ce qui vous choque le plus dans le fait que les désignés pauvres tuent pour une récompense? Myriam, on commence par toi.
Bah, selon moi déjà, c'est pas une question de choix du coup, parce qu'ils sont vraiment uniquement là pour survivre, et je pense que pour eux leur seule récompense c'est vraiment la survie. Il y a même pas d'autres, je pense pas qu'ils pensent au fait qu'ils vont devenir riches s'ils gagnent, à part peut-être ceux des premiers districts, mais quand on se retrouve face à 23 autres personnes qui veulent tous nous tuer, je pense que là il n'y a plus aucune récompense à part la survie qui vient en compte.
Ouais, c'est vrai. Et toi Lila?
Sur le fait que, est-ce que, enfin, pour dire est-ce que c'est juste ou pas juste, déjà je pense que c'est pas juste d'avoir ce concept-là, ouais. C'est même horrible. Bon, après, c'est parce que c'est une dystopie aussi, donc c'est un peu le but, sinon ce serait pas drôle. Mais après, par rapport à la deuxième partie de ta question, est-ce que tu peux répéter?
Bah, en fait, juste qu'est-ce qui te choque le plus dans le fait qu'ils tuent pour une récompense, en fait?
Bah, en fait, ils ont pas vraiment le choix. Et ils sont contraints, mais on peut voir quand même à la fin des Hunger Games où Katniss, l'héroïne, participe avec Peeta. Ils finissent tous les deux et ils mettent beaucoup de pression au Capitole en disant soit il n'y aura pas de vainqueur et tous les deux on meurt, soit en gros il y a deux gagnants et vous nous laissez partir. Donc il y a quand même un peu. Un petit côté nous chauffait pas trop, quoi.
Oui, c'est ça. Il provoque un petit peu le Capitole pour voir leur réaction et aussi pour survivre tous les deux parce qu'ils viennent du même district. Myriam ?
Sachant que par la suite, du coup, dans les films, il y a une rébellion. Il y a une révolte. C'est même le nom dans des films. Donc, je pense que les personnes, enfin, personne, même les pauvres, même le fait de gagner, personne n'est d'accord avec ça dans les districts, ou en tout cas très peu.
Et toi, Ethan, t'as vu les films ? Tu voudrais nous en parler ?
Ça fait longtemps que je les ai pas vu, mais je partage l'avis de Myriam et de Lila.
Ouais. T'es d'accord avec tout ce qu'on a dit ?
50-50.
Ah ouais ?
Genre, il y a des parties de Myriam que je suis d'accord et des parties de Lila que je suis d'accord et inversement.
Ok. Alors, du coup, j'aurais une deuxième question dans ce débat. Dans le film, on peut voir des enfants pauvres s'affronter pour divertir les riches. Voyez-vous une ressemblance avec le monde actuel ? Myriam ?
Oui. Enfin, des ressemblances normales parce que c'est inspiré de notre monde et c'est une dystopie, donc c'est mis de manière exagérée. Mais il y a beaucoup d'écarts dans notre monde entre les classes sociales. Il y a des pays où des enfants meurent de faim et il y a des pays où des enfants vivent dans l'abondance au niveau de la nourriture et ne connaissent pas du tout la faim. Je pense qu'on n'est pas divertis. On est quand même choqués. Mais depuis qu'on est enfant, on apprend à l'école ou dans les médias que des gens souffrent, des gens meurent de faim, des gens vivent dans une pauvreté extrême. Et même nous, qui ne sommes pas non plus hyper riches, on est quand même des privilégiés par rapport à certaines personnes. on a normalisé ça inconsciemment. Donc c'est pas aussi horrible que d'être diverti, mais d'un autre côté, c'est pas mieux parce que pour nous, c'est normal.
Mmh, c'est vrai. Et toi, Lila, tu vois une ressemblance avec le monde d'aujourd'hui ?
Moi, il y a une image qui me vient en tête quand tu as posé la question. C'est cette fameuse image qu'on a tous connue dans nos livres d'histoire.
C'est vrai, on la connaît bien, celle-là. Ouais.
Donc, c'est une image en Inde, si je ne dis pas de bêtises.
Inde ou Brésil ?
Non, ouais. Je crois que c'était l'Inde.
Ouais.
Bon, bref. Si c'était l'un des deux pays, on l'a tous en tête. Et c'est vraiment cette photo où du côté droit de l'image, il y a les grands buildings. Il y a une route à moitié piteuse qui sépare, entre guillemets, ces deux mondes. Et de l'autre côté, il y a les bidonvilles. Et il y a juste à faire trois pas et on passe d'un monde à l'autre. Et ça me fait vraiment penser à Hunger Games parce qu'il y a vraiment ce côté... au centre, c'est le Capitole, et en fait, il n'y a pas grand chose entre les.
Extrême richesse et extrême pauvreté.
Ouais, voilà, c'est ça. Et on fait même pas quelques pas et on se retrouve dans l'opulence. On est dans un monde vraiment très opulent, et puis d'un coup.
Dans un monde de totale précarité.
Il n'y a plus rien, quoi. Jusqu'au ouais. District 13, où là, vraiment, c'est.
Bombardé.
On dirait un village de guerre, quoi. C'est complètement bombardé, détruit.
C'est ça, et puis en plus ça met aussi les enfants, parce qu'on voit que dans les bidonvilles en Inde, il y a des enfants qui sont exploités, qui travaillent de force, et aussi on voit qu'il y a des gens qui en profitent, et donc c'est pas pareil que du divertissement, mais c'est aussi de l'ignorance. Ethan, tu voudrais donner ton avis ?
Je ne sais pas quoi dire, donc je dirais que j'ai aucun avis là-dessus, juste que c'est pas correct que ça soit... de façon dystopique dans les films ou de façon réelle dans la vie.
Mmh, c'est vrai. Donc c'est vrai que ça nous fait un peu penser à soit un futur, soit même ce qui se passe actuellement.
Ouais, un futur ou un présent déjà terrible, en fait.
Donc, et même un passé. Pour vraiment référence à ce qui se passe dans le monde et à ce qui pourrait même se passer.
Et à ce qui s'est déjà passé, même.
Mais oui, c'est ça, complètement. Alors, dernière question. Aujourd'hui, il y a un fossé creusé entre les pauvres et les riches, du coup. Et si demain il survient une révolte, est-ce que envoyer les gens à la mort est-elle une mesure légitime pour les punir, comme dans les Hunger Games finalement ? Myriam ?
Tu veux dire que pour punir les personnes qui ont fait la révolte ?
Oui, c'est
on
ça.
On les renverrait pour. Ah non, c'est pas totalement injuste.
Ah
parce
oui.
Que de toute façon, dans le but, dans les Hunger Games, c'est même pas tant de les punir, c'est d'avoir le contrôle en fait sur les 12 districts. Mm. Parce qu'ils les mettent en compétition, donc ils sont tous divisés. Et en plus de ça. Les districts qui gagnent le plus, donc c'est souvent les premiers districts, sont les plus riches parce que c'est ceux qui ont le plus gagné. Donc ça apporte plus d'opulence, donc ça crée vraiment une compétition. Et on voit d'ailleurs qu'ils réussissent à faire une révolte en se soudant tous les coudes quand les districts réussissent à s'unir avec le district 13.
Oui, c'est vrai. Et du coup, on est d'accord que...
Punir en envoyant des enfants entre 12 et 18 ans à la mort, je ne suis pas d'accord.
C'est ça, c'est des enfants qui sont choisis.
Oui, en plus de ça, c'est des enfants... C'est très jeune.
Oui. Lila, t'en penses quoi ?
J'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Myriam, elle a tout dit. voilà. De toute façon, c'est une dystopie. Alors, dans le film, le seul petit moment de bonheur qu'il peut y avoir, à la limite, c'est l'histoire d'amour entre Katniss et Peeta. Et encore, parce qu'elle n'est pas non plus...
C'est pas tout rose,
c'est pas fichu
dans une arène.
Hein. Donc, voilà. Mais la dystopie, elle est là pour nous faire réfléchir et pour grossir les traits de ce qui se passe et qui, en fait, n'est pas si éloigné de ce que la dystopie raconte. Hein.
Oui,
parce qu'il y a des trucs, c'est quand même très très proche. Hein.
Comparé à d'autres dystopies comme Labyrinthe, où c'est avec des zombies, ce qui est quand même beaucoup plus éloigné que nous, là ça fait vraiment référence à notre société.
Et surtout au gouvernement et aux décisions politiques, tout ça. Donc on peut voir, là c'est de l'extrême évidemment.
Oui, bien sûr.
Mais c'est vrai que la question peut se poser. Enfin, c'est cette question-là. Est-ce que ce serait légitime carrément de punir à travers la mort et cette pression, cette oppression même, je dirais, de vouloir contrôler à tel point pour que rien ne se repasse comme avant.
Après, il y a plein de pays dans lesquels c'est comme ça.
Mais c'est vrai. Et ça, on ferme un peu les yeux là-dessus.
Après, moi, je rajouterais quelque chose. C'est que le film, il ne faut pas oublier qu'il a 10 ans, voire plus. Je crois que le premier, il est sorti en 2012. Je crois qu'il va de 2012 à 2014.
Sachant que c'est des livres en plus de ça qui sont sortis avant.
Bien avant, début en 2010, je crois. J'ai plus exactement la date.
Dans années.
Donc, moi, je trouve que plus le monde avance, plus on se rapproche de choses qui sont décrites dans les livres et les films.
C'est ça qui fait peur.
Bah oui, et même quand on regarde notre passé, le passé de nos pays historiques ressemble quand même fortement parfois à ce genre de dystopie. Et c'est ça qui est effrayant, c'est que c'est notre futur, mais c'est aussi notre passé.
Voilà. Et c'est aussi sur ça que se basent les films comme ça.
Ouais.
Ethan ?
Moi, je dirais que pour une révolte, ce n'est pas une raison suffisante pour envoyer des enfants entre 12 et 18 ans là-bas. Surtout que je pense que c'est leurs parents qui ont mené la révolte. Ils n'ont rien à voir avec ça. Donc, c'est genre pas juste pour les enfants. C'est surtout les parents qui devraient être punis. Et même, genre, une révolte, certes, c'est pas correct pour être puni de cette façon. Il y a des choses pires que ça. Elles auraient peut-être dû être emprisonnées ou des trucs du genre.
Mais même, que ça soit une révolte ou non, on n'envoie pas les gens à la mort, surtout des enfants.
Surtout, oui, des enfants qui n'ont rien fait, comme tu disais, Ethan.
Et puis au hasard, comme ça. Ouais. Parce que dans les films, on rappelle aussi que l'héroïne, du coup, Katniss, elle se porte volontaire. Elle n'est même pas choisie parce qu'elle veut en fait protéger sa sœur.
Ouais,
qui, elle, est toute petite, toute jeune, qui c'est sa première fois. Et c'est la... La seule
et c'est
fois
pour
où
ça
en fait,
d'ailleurs que c'est le symbole de la révolte.
Oui, et puis c'est pour ça d'ailleurs que les gens l'aiment, parce qu'il faut rappeler que dans les films, bon, je ne vais pas débattre là-dessus, mais il y a des sponsors qui en fait favorisent des participants, et du coup, c'est vrai qu'elle est beaucoup aimée au Capitole parce qu'elle a été volontaire et que ça a touché les gens.
Oui.
Après, il faut regarder les films pour avoir la suite.
Et aussi parce qu'elle est quand même, couillue dans le sens... où elle est quand même la fois où elle tire la flèche
dans la pomme,
dans
cochon,
la pomme. Je pense que Snow, il l'apprécie aussi parce qu'il a dû... Alors moi, je n'ai pas vu le dernier film, mais je pense qu'il a dû voir en elle un peu toute la rage et la force qu'elle met pour mettre en place sa révolte et pour dire qu'elle n'est pas d'accord. Je pense que Snow a vu en elle une partie de lui quand il était jeune.
Oui, ça faudrait regarder
toute
le dernier film.
Et je pense qu'il s'est reconnu.
Ouais.
Et c'est pour ça que, en fait, c'est très ambigu parce qu'on a l'impression qu'il la déteste. Mais en même temps, il y a certains passages dans le film.
Un certain respect aussi pour
ses
ambitions et ses décisions dans tout ce qui est la révolte, la façon de parler, sa façon d'agir. Il y a tout un mouvement qui est à la fois un peu provocateur, mais aussi... revendicateur aussi, on voit.
Et je rajouterais juste une dernière chose. quand il y a une révolte, on sait bien que des gens qui vivent dans un monde où ils sont bien, ils n'ont pas de raison de se révolter.
Oui.
Et que s'il y a une révolte, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pas une raison pour punir les gens, puisqu'ils sont déjà punis de quelque chose, sinon ils ne se révolteraient pas.
Sachant que le truc intéressant aussi, c'est qu'à la fin des films, il y a une autre personne, celle qui gérait la révolte, qui veut refaire des Hunger Games.
Oui.
Pour punir ceux qui ont fait les Hunger Games. Et c'est pour ça que, du coup, je peux le dire ou pas, un petit spoil, mais Katniss doit exécuter le président qui a fait les Hunger Games. Et au lieu de ça, elle va tuer cette présidente-là pour ne pas que ça se réitère.
Oui.
Et c'est le peuple qui va tuer le président Snow. Mais du coup, même les personnes qui ont dirigé la révolte étaient quand même pour... recommencer les Hunger Games.
Et moi, c'est surtout que, juste pour finir, mais je dirais que en fait, on se rend compte que on a presque de la compassion pour Snow, dans le sens où on se rend compte que la personne qui est la plus, on va dire, mauvaise, c'est cette femme-là qui en fait rentre dans la brèche du pouvoir et a la possibilité, donc du coup elle prend le pouvoir, et je trouve que cette scène elle est forte. Et je pense aussi qu'il y a le fait que, comme Katniss elle a discuté avec Snow avant, et ils se sont quand même beaucoup rencontrés, je pense que comme ils se sont un peu reconnus l'un dans l'autre, elle, je pense qu'elle voulait pas elle-même le tuer, et elle a laissé le peuple le faire
décider.
Pour pas avoir la responsabilité de le tuer, quoi.
Ouais.
Bah, on pourra conclure du coup qu'au final, la vengeance n'est pas forcément une punition, parce que du coup, comme tu disais, la nouvelle présidente veut refaire des Hunger Games pour punir ceux qui ont tué un peu tout le monde. Voilà. Bon, j'espère qu'on n'a pas trop spoilé les auditeurs. J'espère aussi qu'ils pourront en parler entre eux et que... Ethan.
Oui, et j'ai un avis à faire suite à ce que Lila a dit. Pour moi, la scène avec la pomme et le cochon, le regard de Snow, si je me trompe pas, s'il était là, parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé, j'ai eu le sentiment genre qu'il voyait en elle l'espoir de la rébellion et qu'il savait que ça pouvait recommencer, ouais. Et qu'elle représentait, elle, indirectement à ce moment-là, le symbole du Gémeaucœur, l'oiseau, que la costumière ou Pita, je sais plus, lui a donné le collier. Et c'est à partir de ce moment-là, de la scène de la pomme et de la remise de collier, que la rébellion a vraiment commencé.
Ouais, t'as totalement raison, Ethan.
C'était un symbole un peu
oui, c'était...
d'envie de s'affirmer, quoi, ouais. On va dire.
Et Snow a vu la menace à ce moment-là et il a, pour au début, il n'a pas vraiment agi pour l'arrêter parce qu'il s'en doutait pas, mais après, il l'a regretté.
On peut dire ça. Bon, j'espère que vous qui nous écoutez, vous pourrez autant débattre que nous, on l'a fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé au débat. Et puis, Myriam, je te relaisse la parole.
Merci à toi, Maya. Ce débat était très, très, très intéressant et enrichissant. Et pour finir, un peu plus en douceur, Manuela, tu comptes nous parler de ta passion.
C'est exact. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'écriture. Bon, pas d'écriture d'articles de journaux. En tout cas, pas pour l'instant. Ce qui me fait vibrer, c'est l'écriture de fiction. Pour être plus précise, j'écris principalement des romans et nouvelles de fantasy, souvent sur un fond de romance et de mystère. Et toujours avec une fin tragique. Je sais, ça donne envie de les lire. Pour un petit background, j'ai commencé l'écriture au berceau. Bon, plutôt en primaire pour être précise, mais je m'y suis mise sérieusement en 2016. Arrêter ses études, ça laisse du temps pour découvrir, ou redécouvrir, ses passions. J'écris énormément et j'ai toujours des tonnes de projets. Écrire, c'est pour moi le meilleur moyen de me vider l'esprit. Les idées semblent sortir de nulle part et je ne peux pas m'empêcher de poser sur papier ce qui vaut la peine de l'être. J'ai une étrange vision de l'écriture. Je n'ai pas l'impression d'avoir le choix d'écrire. Ça fait partie de moi comme ma main droite fait partie de mon corps. Et pas non plus l'impression de choisir de mon plein gré ce qui se mettra sur le papier. Comme si les personnages existaient et me racontaient juste leur histoire pour que je les écrive. Je n'ai pas tant de pouvoir sur l'histoire qu'on pourrait le croire. Car on ne devrait jamais aller à l'encontre de la personnalité d'un personnage, sinon vive les incohérences. Malheureusement, ils sont un peu trop libres de leur choix et ça modifie souvent le déroulement de l'histoire. À l'heure actuelle, j'ai deux gros projets en cours. Je suis dans l'écriture d'un monologue pour le scénario d'un court-métrage amateur. Je bosse aussi sur une nouvelle pour un concours d'écriture organisé par la maison d'édition de mes rêves, Mnemos. Ce qui m'amène à parler de mes objectifs pour l'avenir. À propos de notre sujet, évidemment. Mon rêve ultime serait de vivre de mon écriture, mais être publié serait déjà un excellent début. Et je crois que l'on me verrait pleurer de joie le jour où je tiendrai un de mes bouquins édité en version papier. Si je devais donner des conseils à un écrivain débutant, bien que mes 8 ans d'expérience soient faibles comparés à des auteurs publiés, ce serait cela. Premièrement, ne vous attendez pas à écrire un chef-d'œuvre dès le premier jet. Il n'est pas fait pour être parfait, juste pour être la ligne directrice de ce que l'histoire deviendra, une fois modifiée, corrigée, etc. Il y aura forcément des incohérences, des problèmes en tout genre, et c'est normal. Deuxièmement, il existe des méthodes d'organisation pour passer d'une simple idée à un roman. Je n'en donnerai qu'une ici, car c'est la seule que j'utilise quand j'en ressens le besoin. Elle est appelée la méthode du flocon, ou parfois boule de neige. La méthode est simple, progressive et adaptée à tout auteur, novice comme professionnel. Elle consiste en 3 étapes. L'étape 1, écrire l'histoire en une seule phrase. L'étape 2, développer cette idée sur 5 phrases qui décrivent la situation de départ, les péripéties et la situation finale. Et l'étape 3, développer chacune de ces phrases en paragraphes pour avoir un synopsis complet de l'histoire. Mon site de prédilection pour utiliser cette méthode est scriptbook.com. Il la décrit étape par étape pour que même les plus profanes d'entre nous puissent y trouver leur chemin. Troisième et dernier conseil, écrivez pour vous, pas pour plaire au lecteur. N'écrivez que ce que vous voudriez lire, comme le disait je ne sais plus qui. Si ce que vous avez écrit vous plaît, alors vous avez déjà réussi à écrire quelque chose qui en vaille la peine. Peut-être que ma chronique vous a donné envie d'écrire. Maintenant, Myriam, je voudrais savoir, toi toi qui écris déjà, connaissais-tu la méthode du flocon ?
Non, absolument pas, et je la trouve vraiment très pratique et je pense que je vais l'utiliser à l'avenir. Merci à toi Manuela de nous avoir parlé de ta passion, merci à toute l'équipe pour tous ces sujets ainsi que ces échanges les plus enrichissants. Je rappelle qu'il y avait avec nous Ethan. Ethan, ton ressenti pour l'émission ?
C'était super.
Et Lila, ton ressenti par rapport à l'émission ?
C'était super.
Je pense que tout le monde va dire super. Mamadi, ton ressenti par rapport à l'émission ?
C'était super bien.
Génial. Maya, ton ressenti par rapport à l'émission ?
Incroyablement super.
Et pour finir, Manuela, ton ressenti ? Ça a été ?
Super. Beaucoup de stress, mais super.
Eh ben, c'est super alors. Nous vous avons parlé des anecdotes sur la série fantastique Merlin, du très populaire Conte de Monte Cristo. Nous avons également débattu sur les différents sujets et morales traités par les films Hunger Games. Emmanuela nous a partagé sa passion pour l'écriture de fiction. Merci de nous avoir écoutés et d'être restés jusqu'au bout. C'était Myriam, votre animatrice. Vous avez écouté l'émission des jeunes de la mission locale. Je vous souhaite une super journée sur Radio G.